Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Jusqu'à 9h, l'info en direct avec vous. Bon réveil à tous.
Europe 1, il est 6h.
C'est pénible d'acheter bio au marché et de voir que ses enfants sont contaminés par le canapé le soir.
Pas moins de 6 polluants du quotidien dans nos organismes, c'est ce que montre une importante étude, reste à connaître les conséquences sur notre santé.
Le gouvernement qui se retrouve en séminaire ce matin à l'Élysée, ça grince un peu chez certains ministres qui se demandent à quoi ça sert.
Camouflet pour le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson, les députés ont voté en faveur du report du Brexit. Quels seront les prénoms stars l'année prochaine? Emma pour les filles, Gabriel pour les garçons. Nous irons dans une maternité où c'est un dilemme pour les parents.
On arrive tous évidemment dans un couple chargé de notre histoire, avec nos a priori, avec les noms qu'on a associés à celles qu'on n'aimait pas au lycée, celui qui avait vraiment trop de boutons, qui sentait mauvais.
Et puis alors que Gaël Monfils joue tout à l'heure son quart de finale à l'US Open, nous prendrons des nouvelles de Joe Wilfried Tsonga qui dispute un petit tournoi à Cassis.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans les petits tournois comme ça, on est presque plus sollicité, parce que nous, dans les grands tournois, souvent on est un peu isolé du grand public, dans un cocon.
Il est 6h01, bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
Des noms barbares comme phtalate, parabène, bisphénol ou éther de glycol, ça ne vous parle peut-être pas a priori, et pourtant ce sont des produits présents dans notre vie de tous les jours et surtout dans nos organismes.
C'est ce que montre l'étude de Santé publique France, ces polluants, parfois cancérigènes, parfois perturbateurs endocriniens, eh bien on les trouve chez tous les Français et surtout chez les enfants.
Oui. Et Benjamin Péter est allé rencontrer des familles toulousaines étonnées de ses résultats.
Le bisphénol, on a déjà entendu parler. Autant il y a des choses, moi j'en ai jamais entendu parler. Les retardateurs de flamme bromée, je ne sais même pas ce que c'est.
Ces retardateurs de flamme bromée que découvre Julie, on les trouve par exemple dans le mobilier, le tissu des canapés ou même des appareils électroniques. Cette maman de 4 enfants avait déjà supprimé les biberons au bisphénol A il y a quelques années, mais elle se rend bien compte qu'il est très difficile d'être à l'abri.
On avait déjà changé tous les biberons en plastique par des biberons en verre. Au fur et à mesure, effectivement, on essaie d'adapter son mode de vie pour essayer de se protéger le plus possible. Mais après, sur tous les produits qu'on retrouve dans les maisons, les vernis, les peintures, les meubles, le mobilier, ça, on est confronté tous les jours.
Marie, elle aussi, fait de plus en plus attention à ce qu'elle mange, à ce qu'elle consomme pour sa famille de 3 enfants, mais elle n'imaginait pas être à ce point entourée par des substances controversées.
On tend vers le mieux, on essaye d'éviter les emballages. On a toute une démarche où on fait gaffe à ce qu'on fait et en fait, c'est pénible d'acheter bio au marché et de voir que ses enfants sont contaminés par le canapé le soir. C'est un peu angoissant et en même temps c'est un peu décourageant.
Et toutes les deux utilisent des applications pour choisir leurs aliments, connaître la composition des cosmétiques qu'elles achètent, une démarche qui désormais leur apparaît un peu vaine. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Matinée chargée pour les ministres avec d'abord le conseil bien sûr, et puis ensuite le séminaire gouvernemental de rentrée où on parlera notamment de retraite, d'écologie. Il sera également question de l'agenda et de la méthode de ce fameux acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Et l'objectif, c'est d'inciter les ministres à travailler sur les problèmes quotidiens des Français. Des ministres, Jean-Rémy Baudeau, qui ne voient pas tous ce séminaire d'un très bon œil.
Il y a un côté théâtre. À chaque fois, des faillots lèvent la main pour se faire bien voir du président, raconte en privé une ministre de premier plan. Pour certains, cet exercice de team building macroniste a atteint ses limites. Nous sommes trop nombreux autour de la table pour que ça soit réellement efficace, constate un membre important du gouvernement pour qui les agendas sont trop chargés pour se permettre ce temps de pause. Les séminaires gouvernementaux sont-ils une perte de temps? Certains ministres d'expérience commencent à le penser. La faute au dernier organisé fin avril à Matignon après le grand débat national. Une journée entière sous la direction d'Edouard Philippe. L'ambiance était un peu trop détendue, se souvient un conseiller qui attend beaucoup du séminaire du jour sous la houlette directe du président Macron. Car l'impatience monte en cette rentrée qui s'étire. On est tous déjà au travail, s'agace l'entourage d'un ministre issu de la droite. Avant de lâcher, ça fait 4 fois qu'on inaugure l'acte 2.
Jean-Rémy Baudeau est autour de la table tout à l'heure, de nouveau venu au gouvernement. Jean-Paul Delevoye qui défendra la réforme des retraites et le député Jean-Baptiste Djebari qui prend le portefeuille des transports.
L'autre rendez-vous politique de la journée, c'est l'annonce attendue de Cédric Villani, candidat malheureux à l'investiture pour les municipales à Paris. Il devrait tout de même se présenter face à Benjamin Griveaux, le candidat officiel de La République En Marche.
Europe 1, il est 6h05. La suite du journal, Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
Deux chiffres qui ont de quoi surprendre. 84 millions de cartes vitales en circulation en France. Oui, 84 millions pour 67 millions d'habitants.
Et deux parlementaires, la sénatrice Nathalie Goulet et la députée Carole Grandjean, présentent des propositions choc pour lutter contre la fraude aux prestations sociales. Des assurés n'habitant plus dans notre pays continueraient à utiliser leur carte vitale pour se faire rembourser les soins. Ces parlementaires proposent notamment une limite de validité de 2 ans pour les cartes, Olivier Samin.
Dans leur pré-rapport, les deux parlementaires s'appuient sur un chiffre transmis par l'INSEE. 84 millions de personnes sont aujourd'hui répertoriées dans le système social français comme étant en vie ou réputées en vie. 84 millions de personnes éligibles aux prestations sociales, alors que la France ne compte que 67 millions d'habitants. Pour Nathalie Goulet et Carole Grandjean, derrière cet écart, il y a forcément des personnes qui ne sont plus en France, mais qui ont gardé leur carte vitale. Et c'est là, disent-elles, que se trouve la source d'une fraude potentielle qu'elles se refusent pour le moment à chiffrer. Fraude, par exemple, consistant à se faire rembourser des soins par la Sécurité sociale alors qu'on réside à l'étranger. D'où la recommandation choc des deux parlementaires, limitée à 2 ans, la durée de validité des cartes vitales. Dans une mise au point diffusée hier après-midi, la Caisse nationale d'assurance maladie affirme qu'elle mène tous les ans des campagnes de contrôle de la situation de ses assurés pour lesquelles elle ne dispose pas d'informations récentes sur le lieu de résidence. Et lorsqu'elle en vient à la conclusion qu'un assuré n'habite plus en France, elle procède systématiquement à la fermeture de ses droits.
Olivier Samain.
Près de la moitié des services d'urgence dans toute la France sont encore en grève ce matin. Les dernières annonces de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pour tenter de désengorger les urgences, eh bien ces annonces n'ont pas calmé la colère.
Bonjour Hugo Huon.
Bonjour.
Merci d'être en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes urgentiste à l'hôpital Lariboisière. Vous présidez le collectif Interurgence à l'origine du mouvement de grève. Agnès Buzyn promet d'améliorer la situation. D'autres annonces sont prévues la semaine prochaine. Vous avez toujours l'impression de ne pas être entendu?
Oui. Alors, c'était que les premières annonces qu'il y a eu hier et avant-hier. On attend la majorité lundi. Pour l'instant, dans ce qui est proposé, on sent encore qu'on nous oppose organisation et moyens. C'est-à-dire que ce sera une réorganisation probable du système de santé intéressante, mais à moyen constant. Donc, si vous voulez, ça changera pas grand-chose au final.
Et malgré cette grève de grande ampleur, vous ne semblez pas obtenir gain de cause, en tout cas quand on vous écoute. C'est quoi la suite, Hugo Huon?
Là, on voit avec les médecins et l'ensemble des hospitaliers pour se fédérer ensemble, pour augmenter le budget global des hôpitaux et pour avoir plus de lits. On verra si ça marche ou pas. En tout cas, c'est un combat qui est juste pour la santé, qui nous paraît important. Il faudrait mobiliser un peu plus les citoyens aussi dans cette histoire. On verra au moment de l'Assemblée générale du 10 septembre, mardi prochain, comment ça se passe.
Et vous avez aussi une journée nationale d'action qui sera élargie au privé le 11 septembre et une manifestation prévue à Paris. Merci Hugo Huon d'avoir été l'invité du journal de 6h. Vous êtes à la tête du collectif Interurgence.
Europe 1, il est 6h08.
Une claque, une véritable claque pour le Premier ministre britannique Boris Johnson. Non seulement il a perdu sa majorité au Parlement hier après-midi, mais surtout les députés ont adopté une motion reportant le Brexit.
Oui, les élus de l'opposition ont été rejoints par 21 rebelles conservateurs, parmi eux le petit-fils de Winston Churchill ou encore l'ancien ministre des Finances. Ils vont d'ailleurs être exclus du parti. L'opposition a donc gagné la bataille, mais pas la guerre. Pierre Herbulot, une nouvelle journée décisive commence.
En ordonnant la fermeture pour 5 semaines du Parlement après-demain, Boris Johnson a imposé une course contre la montre à ses adversaires politiques. Une course dont ils ont pris la tête hier soir. En récupérant le contrôle de l'agenda parlementaire, les députés d'opposition plus les frondeurs se sont offert le droit d'écrire une loi en urgence pour repousser le Brexit. Reste à se mettre d'accord aujourd'hui sur les termes exacts du texte. Selon les derniers bruits de couloir dans le palais de Westminster, ce serait une sortie de l'UE au plus tard le 31 janvier et surtout l'impossibilité d'un Brexit sans accord. Une fois ratifié par la Chambre des communes, normalement dans la journée, le texte doit passer devant la Chambre des Lords, l'équivalent du Sénat. Au milieu de ce marathon législatif couru à toute vitesse, il y a aussi cette motion déposée par Boris Johnson pour déclencher des élections anticipées. Il a besoin du vote de 2/3 des parlementaires. Dans l'opposition, certains y voient l'opportunité de renverser définitivement la vapeur. D'autres, un piège à éviter à tout prix.
Pierre Herbulot à Londres pour Europe 1.
Emma pour les filles, Gabriel pour les garçons. Voilà les deux prénoms qui seront les plus donnés cette année selon l'officiel des prénoms.
Oui, un palmarès dévoilé par Le Parisien ce matin avec une nouvelle tendance, des noms sans connotation religieuse ou sociale, des prénoms caméléons. Johanna Chabas s'est rendue à la maternité de Port-Royal où les jeunes parents se creusent la tête pour ce choix qui influence toute une vie.
On arrive tous évidemment dans un couple chargé de notre histoire, avec nos a priori, avec les noms qu'on a associés à celle qu'on n'aimait pas au lycée, celui qui avait vraiment trop de boutons, qui sentait mauvais. Pour nous, ça a été un sacré challenge.
La fameuse bataille pour choisir le prénom, Anne-Laure l'aura vécu jusqu'au bout. Alors comment plaire à tout le monde? Eh bien avec un prénom caméléon, un prénom avec le moins de connotations possible. C'est ce qu'a voulu Jonathan en appelant sa fille Léane.
Samantha, Jennifer, tout ça, c'est des beaux prénoms, mais ils sont trop américains par exemple. Ou alors c'est connoté très avec la religion, très vite. Moi, j'adore le prénom Isaac, par exemple, mais Isaac, c'est quand même lourd à porter.
Mais ce n'est pas tout, un nom caméléon peut aussi se dire dans plusieurs langues. C'est le cas pour Gaïa, le nom choisi par Lionel.
Madame est d'origine, a des origines italiennes. J'ai aussi des origines portugaises, du coup. On a privilégié un prénom qui pouvait passer facilement dans les trois pays, quoi. Donc comme ça, il n'y a aucune difficulté pour personne.
Ce côté mondial est de plus en plus important pour les jeunes générations qui ont connu Erasmus, qui voyagent beaucoup. Mais même avec toutes ces tendances, les parents rencontrés ici avaient un critère principal, aimer un prénom qui fera désormais partie de leur vie.
Johanna Chabas.
J'appelle les couples mixtes qui nous écoutent peut-être et qui ont dû choisir un prénom caméléon pour plaire aussi aux grands-parents, faut pas l'oublier. 39-21, vous allez intervenir peut-être avec mon invité tout à l'heure, Patrick Simon, qui est chercheur à l'INED, sociologue des prénoms et qui sera avec nous à 6h40 tout à l'heure. Lui, son prénom, il n'est pas vraiment courant, Joe Wilfried.
Oui, Joe Wilfried Tsonga, sorti un peu vite de l'US Open où son copain Gaël Monfils dispute tout à l'heure les quarts de finale. À la surprise générale, Joe Wilfried Tsonga, il a demandé une invitation au challenger de Cassis, la deuxième division du tennis. C'est là que Stéphane Frangy l'a rencontré.
C'est un petit tournoi à taille humaine au milieu des pinèdes et à chaque sortie, inévitablement, Joe Wilfried Tsonga retrouve déjà le contact direct avec le public.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans les petits tournois comme ça, on est presque plus sollicité parce que nous, dans les grands tournois, souvent, on est un peu isolé du grand public, dans un cocon.
L'effet de curiosité fonctionne à merveille. L'unique tribune est pratiquement pleine. Le directeur Bernard Fritz savoure.
On a eu une bonne surprise. C'est vrai que nous, on n'est pas dans une catégorie avec ce calibre de joueur. C'est sûr qu'avoir Joe, c'est super.
Allez, Joe, allez. Mais sur le court, face au 750e joueur mondial, Tsonga commet des erreurs, ce qui agace Serge, notre voisin, en tribune.
C'est pas ça, hein. On sent qu'il est pas sûr, quoi. C'est pas le Tsonga qu'on connaît, quoi.
Et victoire finale, quand même, pour le joueur qui pense avoir fait le bon choix de se relancer ici.
C'est ce que je suis venu chercher. J'enchaîne les matchs. Pour rester en forme, il faut que je joue. Essayer de pas couper, continuer à jouer, pour rester en coupe.
Et l'aventure se poursuit pour lui. Prochain tour, prochain rendez-vous, demain. Cassis, Stéphane Frangy, Europe 1.
Et puis on vient de l'apprendre, l'US Open, c'est fini pour Roger Federer. Le Suisse 3e mondial a été battu en quart de finale et en 5-7 par le Bulgare Grigor Dimitrov qui pointe à la 78e place. Dimitrov affrontera Medvedev pour une place en finale.
On reparlera de l'US Open aussi dans notre édito sport ce matin à 7h25 avec Virginie Fulpin qui s'intéresse, elle, à Gaël Monfils. Merci Hélène Zélani, c'était le journal, prochain journal à 6h30 avec Jérôme Lacroix.